Parce que ça caille aujourd'hui.
Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences.
Sans blague. Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza?
Mais toi, c'est t'as un petit peu un voleur aussi.
Elle va porter plainte pendant qu'on y est.
Vous voulez porter plainte?
Je passe l'éponge.
Un iceberg droit devant.
Et après, une fois que t'as dribblé le destin, tu fais quoi?
Plan séquence.
Alors, ça vous fait peut-être pas tellement plaisir de l'entendre, mais votre mère, elle a un cul qui va très bien. Va mieux que jamais, même.
Ça n'est jamais assez. On ne leur fait jamais gagner assez d'argent. Qu'est-ce qu'on devient dans cette histoire? Qu'est-ce que deviennent les salariés?
Sur Radio Campus Tour.
Je suis ton père.
T'es incapable de m'aimer. Incapable de m'aimer.
Petite saloperie de païen communiste, t'as vachement intérêt à me dire que t'aimes la Sainte Vierge, ou je te détripe moi un coup de pompe, tu m'entends? Alors dis-le que tu l'aimes, la Sainte Vierge, dis-le, mon guignol!
Chef négatif, chef!
Chut! Comme c'est joli. La Bambi qui fait dodo.
Tous les jeudis soirs.
Il y a trois mots qui sont importants pour moi. Inspiration, création, partage.
Cinglé! Ah, c'est ça? Ah, tu me crois givré à mort!
Les choses entraînent les choses, le bidule crée le bidule, y a pas de hasard.
Bonjour, c'est Léa Drucker, vous écoutez Plan Séquence sur Radio Campus.
Bonjour à tous et à toutes, vous êtes à l'antenne de Radio Campus Tour, le 99.5 FM, c'est votre émission Plan Séquence. On est de retour pour une émission en quasi-direct pour estival. On t'avait accueilli, Jérôme, l'année dernière pour la même occasion, c'est-à-dire c'est la 9e, hein, c'est ça, la 9e soirée de l'horreur, c'est ça?
Alors c'est la 7e, mais ça, fait 9 ans.
Ah oui, c'est ça, voilà, c'est pour ça que...
pendant le Covid,
ah, oui, c'est pour ça. Fait. Et on va passer l'heure en ta compagnie, puisque c'est maintenant une institution. Il y a la nuit des studios et il y a la soirée de l'horreur, on peut le dire.
Et ben, c'est vrai, hein, c'est vrai. J'aurais pas cru, hein, mine de rien, à l'époque, mais ouais, tout à fait. L'horreur en institution cinéma studio. C'est quand même chouette. Hein.
Et on va revenir un peu, peut-être d'ailleurs sur l'historique, comment c'est né. Et puis, on vous passera différentes musiques. On essaiera de dévoiler, évidemment, toute la programmation, parce que ça a lieu le 22 août au cinéma studio. Et puis, aussi en intro de cette émission, je vous annonce qu'à partir de septembre, on continue évidemment l'émission, mais on sera là tous les 15 jours, donc la première... de la nouvelle saison, je crois que ça doit être la 14e ou 15e saison déjà, ça sera le 6 septembre, le samedi 6 septembre. Mais la dernière émission de cette saison, on parle de la soirée de l'horreur des cinémas studios, et peut-être pour commencer, pour introduire cette soirée, peut-être nous redire qu'est-ce qui est à l'origine de cette soirée. Toi, tu es là depuis le début, les prémices, mais comment s'est née cette envie de faire une soirée, en plus en plein cœur de l'été, en plein cœur du mois d'août?
Comme tu le dis, oui, justement, une des premières raisons, c'était justement de vouloir proposer quelque chose pendant l'été, qui est traditionnellement, on peut dire, une période calme pour le cinéma, de manière générale, hein. Et particulièrement aussi au studio. Donc l'idée était de vouloir proposer quelque chose pour faire venir des gens, parce que c'est peut-être calme, mais du monde, il y en a à Tours, hein. Il y a quand même des gens, et on voulait un peu battre en brèche cette idée de pouvoir proposer à la fois justement des films et puis de l'animation pour avoir une belle soirée d'été. En plus, là, je pense que depuis le début, on n'a que eu du beau temps. Peut-être un vendredi de pluie, peut-être une fois, et encore. Ça, c'était une des premières raisons. La deuxième était qu'on voulait, et quand je dis « on », en fait, c'est les salariés des studios, puisque la soirée de l'horreur a été créée et portée par les salariés. À la différence, j'ai envie de dire, des autres festivals qui sont portés à la fois par les salariés et surtout par les bénévoles, les membres actifs, les commissions des cinémas studios. Celle-ci est vraiment née des salariés et portée encore par les salariés avec l'aide de bénévoles et de membres actifs, et dont certains qui viennent vraiment nous donner le coup de main et le soutien aussi de toute l'associatif du cinéma studio aujourd'hui. Et la troisième raison, c'était qu'on avait envie de proposer du film d'horreur, un genre que certains d'entre nous au cinéma adorons, et bah, un genre qu'on a envie aussi de qu'on voulait mettre en avant de plusieurs manières en fait pour faire venir un public plus jeune au cinéma. L'idée étant de proposer à la fois des films d'horreur qui ne passeraient pas qui ne sont jamais passés au studio. Alors des films d'horreur, il y en a au studio en programmation et comme j'aime le rappeler, le premier film qui est passé au cinéma studio en 63, c'est Psychose de Alfred Hitchcock. Par contre, bah, on est vraiment sur du film d'horreur d'auteur, on pourrait dire, où avec le temps passant, qui c'est des films d'horreur qui sont ancrés dans le patrimoine du cinéma. Là, nous, on avait envie aussi de proposer du cinéma vraiment du cinéma qui tâche. Donc vraiment de la série B, de la comédie, du bon gros gore. Enfin voilà, des choses qu'on n'aurait pas, qu'on passerait pas habituellement. Je sais pas comme exemple que j'ai dans ce qu'on a passé. Par exemple, le Retour des morts vivants qu'on avait passé il y a 2 ou 3 ans. Moi qui ai un film de zombies que j'adore, mélange de comédie, punk, trash, un poil érotique, vraiment que j'adore. Voilà, ça c'est typiquement le genre de film qui ne serait jamais passé avant et qu'on passe dans cette soirée. Et à l'inverse, passer aussi des films d'horreur avec dans l'idée de films d'auteur, de films des films qui ont quelque chose à dire ou quelque chose à montrer. Et essayer aussi de diversifier. Par exemple, le premier film de la soirée de l'horreur, c'était Shaun of the Dead. Et Shaun of the Dead, c'est un excellent film de zombies, encore une fois, pour moi. Et un film réalisé par Edgar Wright, réalisateur anglais qui, pour moi, fait partie du top des cinéastes anglais. Voilà. Tout ça mélangé fait que voilà ce qui a donné la soirée de l'horreur encore aujourd'hui. Voilà cette idée de faire découvrir des films que vous ne trouvez pas au studio, mais aussi des films qui ont, on va dire, qu'on ne classerait pas dans les rayonnages de vidéoclubs de films d'horreur, même si tu trouves toujours les petites perles là-dedans. Extirper tout ça et faire une bonne soirée pour que les gens s'amusent, rigolent, aient peur. Toutes ces choses-là.
Puis maintenant, on peut dire que c'est un préquel du festival Mauvais Tour qui aura une seconde édition au mois d'octobre. J'ai plus les dates là, mais généralement c'est mi-octobre, donc c'est parfait là cette.
Tout à fait. C'est peut-être un peu aussi grâce à cette soirée qui a montré, en fait, je trouve, qui a montré qu'il y a un vrai public amateur de films d'horreur, de films fantastiques, de films fantastiques de manière générale. Et qui a montré qu'il y a un vrai public passionné par ça, qui fait que peut-être justement, un Mauvais Tour a pu se greffer, en tout cas est venu pour la profession et il nous a offert une super édition l'année dernière. Donc ça fait plaisir. Et d'ailleurs, tu vois, en parlant de ça, là tu m'y fais penser, c'est aussi une édition, en tout cas moi, qui aura une autre saveur parce que il y a quelqu'un qui a disparu il y a quelque temps. Il y a dont le décès, enfin on a appris le décès au mois de juin, et en fait qui est décédé au mois de mai, c'est Jean-Pierre Peters. Et Jean-Pierre Peters, pour les gens qui ne connaissent pas, c'était le fondateur d'une revue qui s'appelle Mamou Movies, qui est la revue de cinéma fantastique et d'horreur. Et c'était son créateur, c'est lui qui a porté au début c'était un fanzine, c'est lui qui a porté tout ce courant-là, qui a apporté le plaisir du cinéma d'horreur à tous les fans de films d'horreur fantastique, je te dirais,
en France.
On lu Mad Movies, des grands réalisateurs ont été baignés par Mad Movies et tout ça. Et donc, c'est vrai que je viens d'y penser. Moi, c'est grâce à Mad Movies que j'aime le cinéma, de toute façon, de manière générale. Hein, c'est la revue qui m'a fait entrer là-dedans, qui te donne envie d'en parler et qui a considéré les films d'horreur non pas comme des petits trucs, mais voilà, comme des objets potentiellement analysables et passionnant à voir. Et c'est vrai,
on le dit pas assez, l'importance des revues.
De leur fondateur, de leur créateur, et notamment celle-ci qui a été pendant des années une revue très très particulière avec un ton assez de grande liberté. C'était une revue indépendante pendant très longtemps, même aujourd'hui, elle fait pas partie d'un groupe, d'un grand groupe ou quoi que ce soit. Et c'était une petite bande de trublions sur Paris qui sortait ça, et c'était assez incroyable. Donc voilà, en plus,
une édition
un peu particulière, on pourrait dire, pour lui.
Et bah voilà, la 7e édition, après 9 ans voilà, d'existence. Donc, toujours le même schéma, c'est-à-dire 3 films tout au long de la soirée. Alors, vous n'êtes pas obligé de voir forcément les 3 films, mais on vous encourage évidemment à faire toute la soirée, comme la nuit des studios. Mais on peut, avant de parler précisément là, des 3 films qui font partie de cette soirée, comment vous les choisissez aussi, ces 3 films ? Tu en as un peu parlé, voilà, de tous les films que vous avez choisis au fur et à mesure des années, mais cette année particulièrement, est-ce que tu peux parler de votre choix de sélection ?
Oui, cette année, tout particulièrement, il y a un des 3 films qui nous a été demandé depuis plusieurs années, et notamment très fortement l'année dernière, parce qu'on a, l'année dernière, on avait fait un quiz en salle, et c'était une des questions était « Quel film voudriez-vous voir ?» Et du coup, il est arrivé en tête, ce qui m'a à moitié surpris. Donc du coup, un de ces 3 films, c'est une demande du public. Et ça, on essaie de s'y tenir aussi, d'écouter un peu ce que le public veut, nous demande, voilà, pour essayer de lui proposer ça.
Si c'est possible aussi. Est-ce que
et si c'est possible,
voilà,
bien sûr. Si
on peut le rappeler, voilà, on peut le rappeler aux auditeurs, tous les films qui existent voilà, dans l'histoire du cinéma, un cinéma ne peut pas forcément tout projeter, puisque des fois, les ayants droit, on ne peut pas... Voilà, enfin, il n'y a plus d'ayants droit au film, donc le film n'est plus distribuable, on le dit. Donc là, heureusement, il l'était.
Il l'était, ouais, ouais. Y a... Donc voilà, un grand, grand film demandé. Après, sur les 2 autres choix, c'est vraiment une question d'équilibre aussi. Parce que généralement, quand on a un des 3 films en tête, ça nous permet aussi d'accès pour essayer de se dire, bon, essayer de trouver des films de nationalités différentes, ce qui n'est pas le cas.
Oui, cette année, j'avais envie de te dire.
Et ouais, c'est pas le cas cette année, c'est bon, tant pis. Après, j'avoue, sur l'horaire, c'est très dur de. Alors, je vais pas dire c'est très dur de diversifier, même si après, c'est très dur de pas faire non américain, en tout cas, ou en tout cas, de, même sur la majorité. On essaie de diversifier aussi sur les dates. Essayer de faire de l'ancien, du récent, du moins récent. Enfin voilà. Diversifier sur le réalisateur, réalisatrice. Et là, il y a vraiment des envies. Mais là, pour le coup, il y a aussi une question de disponibilité de copies. Moi, il y a certains films que j'ai particulièrement en tête. Il n'y a pas les copies. Et ça, c'est dommage. Et c'est d'autant plus dommage que plus en plus aujourd'hui, les réalisatrices de films d'horreur sont vraiment mises en avant. Elles sont là. On a Julie Ducournau. Cette réalisatrice, donc malheureusement, j'oublie le nom, mais ça, c'est, j'oublie le nom de tous les réalisateurs et réalisatrices donc, qui nous avaient fait The Substance l'année dernière, qui était vraiment incroyable. Malheureusement, j'ai oublié, donc je ne vais pas me planter. Mais par le passé, on a plein de réalisatrices. J'ai en tête, par exemple, Marie Lambert, qui avait fait Cimetière, de l'adaptation de Stephen King, le film original, où on a, bon, pour ma part, en grand chouchou, c'est Catherine Bigelow, qui a fait un film de vampire, qui pour moi est un chef-d'œuvre, qui est aux frontières du réel, aux frontières de l'aube. Voilà.
Donc, la réalisatrice, c'est Coralie Farja.
Ah, voilà. Exactement.
Merci Internet.
Merci Internet, tu supplies à nos cerveaux. Et continuons comme ça. Donc voilà, donc il y a vraiment cette idée de faire un mix, de faire quelque chose de variation, et aussi dans les thèmes. On ne va pas proposer 3 films, 3 slashers ou 3 films d'exorcisme. On essaie d'alterner avec des monstres, du slasher, de la possession, du poétique, du drôle. Enfin voilà, c'est vraiment tout ça, ce gain-là. Et pour les deux premiers films. Il y en a un, c'est une petite envie perso qui fait écho qu'on a eu quand on a eu un peu les propositions. Je me suis dit, tiens, ça c'est pas mal, ça fait écho avec Les Dents de la Mer pour cette année. Et le deuxième film, là pour le coup, c'est vraiment une envie de le remettre en avant. C'est un film collectif dans l'idée de le procéder, parce que pour le coup, c'est un film qu'on avait passé au studio quand il était sorti. Il y a une dizaine d'années, que je trouve incroyable, qui a sûrement, à mon avis, parce que je ne l'ai pas revu depuis ces 10 ans-là, mais ultra bien vieilli, et je pense qu'il est encore plus fort d'actualité, et qui fait écho en plus avec le marathon à 24 qu'on avait proposé au mois de juillet, puisque dans le marathon 24, il y avait un des films de son réalisateur, le suivant, qui était Under the Silver Lake. Voilà, donc bah, on
tu de... as parlé de Slasher, du coup, du film voilà, qui vous a été demandé. Je te propose qu'on passe le thème de Scream de Wes Craven sur Radio Campus Tour, toujours. Sur Radio Campus Tour, c'était le thème de Scream. Et on peut peut-être commencer par ce film-là de Wes Craven, parce que c'est un film très important voilà, dans le cinéma d'horreur. Tu l'as dit, du courant des slashers, du coup, même si c'était un courant qui existait avant, c'est quand même avec ce film-là qu'il a été repropulsé quand même sur la scène internationale, et ça a permis peut-être à d'autres personnes de découvrir d'autres films, notamment du cinéma italien, parce que c'était un courant très en vogue dans le cinéma italien. Est-ce que tu peux dire quelques mots sur ce grand film, même si je pense qu'il y a des auditeurs qui ne l'ont pas vu, tout le monde a entendu parler de ce film-là, en fait.
C'est ça fait vraiment partie des films que si tu ne l'as pas vu, tu vois certaines scènes, le masque, de toute façon, est devenu la même manière que le masque de Jason ou le masque de Michael Myers. Le masque de Scary Movie est devenu un masque culte, le tueur en lui-même. C'est vraiment... Le courant, c'est un film qui a renouvelé le slasher à son époque, dans le milieu des années 90. Grâce à son réalisateur, Wes Craven, qui lui-même avait déjà injecté, a créé une icône dans le cinéma fantastique et le slasher avec Freddy Krueger pour les Griffes de la Nuit, le premier film. Il était revenu justement à la fin, au début des années 90, il était revenu justement à Freddy Krueger dans un, je crois que c'était le 7e opus, qui est déjà un peu particulier, puisque en fait c'est Freddy Krueger qui sort de sa... En fait, Freddy Krueger qui sait qu'il est une créature inventée de fiction et qui va sortir pour hanter un film sur lui. Et où, dans ce film, Wes Craven joue son propre rôle, Heather Langenkamp joue son propre rôle, Robert Englund apparaît en tant que Robert Englund. Enfin, donc déjà, il y a ce côté un peu méta et mise en abyme et en fait, analyse de l'œuvre de fiction. Et c'est ce qu'on trouve déjà, et c'est ce qu'on revoit quelques années après dans Scream. Donc avec Wes Craven à la caméra et avec Kevin Williamson au scénario, parce que c'est vraiment lui qui a porté ce truc-là, Kevin Williamson, qui était un jeune scénariste et qui a propulsé sa carrière-là avec ce scénario. Williamson fera après derrière notamment la série Dawson. Donc il aime parler des jeunes, il en était assez proche d'âge. Je pense qu'un de ses... un de ses grands modèles, ça devait être John Hughes, je pense. Et du coup, en fait, l'apport de Scream, ou de ces scènes horrifiques, des choses comme ça, c'est de proposer des personnages qui ont, en tout cas, la culture du cinéma d'horreur. C'est-à-dire que dans les films précédents de slasher, on a des jeunes qui courent, qui vont se faire tuer. Enfin voilà, on a toutes ces histoires, mais ce ne sont pas des gens qui ont... c'est des personnes lambda. Et qui vont reproduire, à force de... On regarde tous ces films, qui vont reproduire les mêmes schémas, les mêmes erreurs, et qui va créer même des parodies, des moqueries là-dessus. Alors que dans Scream, justement, les personnages ont cette conscience, ont cette culture du cinéma d'horreur. Et c'est là qu'on arrive justement, je trouve que c'est pourquoi il marque, parce qu'il ancre justement, je trouve, il arrive avec plein d'autres choses, je pense, dans que ce soit la série télé, le film ou la bande dessinée, justement, sur la... En fait, on joue avec la connaissance du public et nos héros ont cette même connaissance. Donc, se crée une connivence entre les personnages et le public via cette connaissance-là. Et on le retrouve dans certaines scènes de Scream, mais je pense que ça parcourt tout le film. Et donc, c'est ce qui a fait cet apport-là. Et je pense que c'est ce qui a marqué, avec d'autres choses aussi. Je pense que les acteurs ont vraiment marqué, que ce soit Neve Campbell, Courtney Cox... Le retournement de le twist aussi a bien très très bien fonctionné. Moi il m'avait bien eu pour le coup. Et je pense qu'il y a vraiment des scènes hyper hyper fortes. L'ouverture. Je pense que l'ouverture fonctionne encore aujourd'hui et a vraiment marqué avec Drew Barrymore, qui est en fait un petit court en lui-même. En fait, un vrai petit court métrage. Et on voit à quel point le film marque, parce que vraiment un an, deux ans peut-être après, on est déjà dans la parodie de Scream, avec les Scary Movie, les choses comme ça. Voilà. Et c'est vraiment un film marquant et qui lance, en fait, il relance une nouvelle vague du film de slasher à partir de là. On a des Souviens-toi l'été dernier, d'ailleurs, dont un nouveau opus sort, où est sorti. Urban Legend, je me rappelle que j'étais voir. Enfin voilà, toute une.
Il y aura cinq suites à Scream.
C'est vraiment. Et du coup, voilà, ça a renouvelé en fait ce genre-là. Ça lui a redonné quelques couleurs, sans forcément le modifier ou quoi que ce soit, ou en avoir une approche moqueuse aussi. C'est ça qui m'avait, qui à l'époque m'avait plu. Il n'y a pas cette approche moqueuse que peuvent avoir d'autres, on va dire d'autres cinéastes. Qui vont se pencher dessus et se moquer un peu du truc. Là, je trouve qu'il y avait quand même un certain respect du truc. Alors après, je pourrais avoir des critiques sur le film, sur d'autres choses. Mais en tout cas, il y a vraiment eu ce grand apport, ce renouvellement. Et puis, il faut se rappeler, dans les années 90, quand on sort Scream, justement, le slasher est vraiment au fond du trou. On en est à des Freddy 24, des choses comme ça. Enfin, et puis d'une mocheté aussi. Hein, c'était assez. Même si Scream a une patine très télévisuelle 90, mais qui fonctionne encore un peu. Mais comparé à d'autres slashers de 2 ou 3 ans avant, ça n'a rien à voir. Hein. On est vraiment. On a quand même mis des sous dans la lumière, dans la photo. Là, comme ça, je te dirais que le. avant Scream, le dernier slasher que je trouve véritablement très beau, c'est Candyman, qui est vraiment une merveille. Hein. Donc voilà, c'est vraiment. Et c'est un film qui marque. Voilà. C'est vrai que ce qu'on te disait en antenne, c'est de te dire qu'aujourd'hui encore, on a des gens de notre âge qui adorent ce film, qui veulent revoir. Puis on a des gamins, enfin, maintenant je peux me permettre de dire des gamins de 20 ans. Ah ouais, non mais Scream c'est génial, je veux le voir, je veux le revoir, je veux le voir sur le grand écran.
Ouais, aussi. C'est ça. En fait, c'est même si maintenant on peut voir, en fait, on peut voir tous les films quasiment sur un ordinateur. Le fait de voir ça sur grand écran avec l'expérience collective que ça génère, c'est autre chose. Ouais.
C'est exactement ça aussi, hein, parce que et ouais, on se rend pas compte, mais de l'avoir découvert au cinéma dans une salle de 200 places dans le noir. Ouais, t'as un peu les miquettes. Hein. Donc là, ça fonctionne. Et c'est ça aussi qui fonctionne avec la soirée de l'horreur, c'est de proposer des films sur grand écran. Et je me rappelle quand même de deux ou trois films où les gens sortaient parce qu'ils n'étaient pas très à l'aise. parce que, non, vous inquiétez pas, hein, t'as des films, tu peux rigoler devant ton écran, ta télé chez toi, mais en salle, c'est autre chose. Les Scream peut jouer là-dessus.
Mais c'est vrai que là, tu soulignes aussi un truc qui est essentiel avec que ce soit la nuit des studios, la soirée de l'horreur, c'est-à-dire de faire revenir aussi venir plutôt à un public qu'on a tendance dans les sondages, en tout cas, à dire qu'il déserte les salles de cinéma. Au final, il fréquente les salles quand il y a une proposition, en tout cas, qui sort un peu de l'ordinaire avec une proposition qui les attire. Et c'est pas forcément une production aseptisée avec les mêmes schémas qu'on reproduit d'année en année. Là, quand il y a des films bons, on parlera tous les à côté aussi par rapport. Il n'y a pas qu'une programmation, il y a aussi autre chose. Ils viennent en fait.
Je suis totalement d'accord avec toi et c'est quelque chose que je trouve qu'on constate de plus en plus et qui explique peut-être pourquoi, par exemple, on a des chiffres très décevants en termes de fréquentation au niveau des blockbusters américains, des choses comme ça. Et je pense qu'il y a une véritablement dévalorisation du film en fait en tant qu'expérience cinéma,
ouais.
Où clairement on se dit mais en fait ça vaut pas le coup d'aller au cinéma pour des formules qui ont été usées pour des choses qui ne nous intéressent pas, et que, surtout pour des choses qui, au bout de 45 jours, on peut les voir à la télé.
Ouais. Et puis qu'on aura oublié dans 45 jours plus tard.
et du coup, je pense qu'il y a une vraie... De montrer ces films-là, des films comme Scream, pour le coup-là, mais je pense, par exemple, moi, l'année dernière, quand on avait passé Carrie au bal du diable, de montrer ces films-là sur grand écran, c'est vraiment... en eux-mêmes, c'est des preuves du fait que voilà pourquoi on va au cinéma. C'est pas voilà pourquoi on aime le cinéma, pourquoi on aime regarder des films, c'est voilà pourquoi on se déplace pour aller dans une salle de cinéma. Parce que là, sur un grand écran, avec le son, avec les gens autour de toi, le fait d'être assis, de lever la tête, quand je sais plus qui disait...
C'est Godard, télé, on baisse la tête, voilà, exactement. Et au cinéma, on la lève.
C'est là que tu te rends compte, c'est des films pensés pour le grand écran. Ce qui ne veut pas dire que c'est moins bien. Enfin si, je pense que c'est moins bien si tu regardes la télé, mais c'est pas forcément moins bien tout pourri. Hein, mais là, tu gagnes. Et Scream aussi en fait partie. Vraiment, Wes Craven, c'est un réel. Il construit son cadre, il fait ces choses-là. L'année dernière, pour prendre un exemple, pour Carrie, ça a vraiment été incroyable parce que moi j'avais un peu peur que les gens se moquent de la patine années 70, des looks, des choses comme ça. Par contre, je tenais le pari qu'en disant ils vont se moquer au début, ils rigoleront pas à la fin. Et ben en fait, ils ont pas rigolé du début à la fin. Hein, ils étaient dedans, mais vraiment du bout en bout. Hein. C'est pour le coup De Palma, ça marche au cinéma, hein, vraiment. Donc c'est vrai, le cinéma actuellement, je trouve qu'en fait, il est dévalorisé à la fois par lui-même parce que les 50 000 films de super-héros sur la même base, et pourtant je suis fan de films de super-héros, mais ça fonctionne.
En fait, on a l'impression de les avoir déjà vus. Alors,
t'as ça, même s'il y en a qui ont bon. Enfin, moi récemment, le Fantastic Four, j'ai trouvé ça vraiment génial. Hein. Je me suis éclaté comme jamais, mais je comprends pourquoi c'est des films qui n'attirent vraiment moins de foule parce que t'as une espèce de formule, et le film sort en VOD 45 jours après aux États-Unis, un peu plus chez nous, mais fondamentalement, on se dit c'est pas la peine de se déplacer pour. Et du coup, je comprends. Et c'est pour ça que je vais être curieux de voir le résultat de troisième Avatar. Parce que si, pareil, il décline, tu te dis...
Alors que le deuxième avait un énorme carton. Voilà.
Et là, tu te dis, si lui, il fonctionne moins, tu te dis, il y a vraiment peut-être quelque chose là.
Mais même dans une autre mesure, tu vois, cette année, puis après on revient sur le cinéma d'horreur, mais une comédie comme ici, en tout cas, une institution, les Baudins partent en vrille. ça a moins bien marché, même si ça a été ça a bien marché. Hein, je dis pas que ça a été un flop, mais comparativement à il y a 4 ans quand l'autre était sorti, il y a eu des belles salles, mais pas non plus des complets comme il y a eu il y a 4 ans.
Ouais, voilà.
Donc comme quoi, ouais, il y a un...
Tu sens vraiment le truc. Et puis c'est sur la longueur, tu vois que ouais, il y a rapidement des chutes, des choses comme ça.
Alors que l'année dernière, et puis enfin on a déjà parlé ici, le marché, on peut pas forcément avoir une vue nette quand l'année dernière, un petit truc en plus que personne n'avait vu venir a fait 10 millions d'entrées.
Ouais, ouais.
Ou le Comte de Monte Cristo, personne pensait qu'il allait faire un film de 3 heures en 9 millions d'entrées. Donc,
et en même temps, tu
et c'est bien.
Mais non, mais c'est génial. Mais c'est vrai qu'après, quand tu te dis avec le recul, par exemple, le Comte de Monte Cristo, il apportait quelque chose qu'on n'avait plus dans le cinéma. Ouais. Et les gens se disent, bah ouais, pour ça, je me déplace. Je pense que c'est ça aussi, c'est donner.
Et là, il y a un autre film dont on parlera qui pourrait peut-être dans quelques années faire partie de la soirée de l'horreur, parce que il y a de l'horreur quand même. C'est un film qui s'appelle Sirate, qui a eu le prix du jury à Cannes, qui est un ovni, un film génial. J'espère que ça va pas être simple, mais là pour le coup, on vous encouragera. C'est une expérience de cinéma, quoi, à vivre dans une salle.
En septembre, qui sont,
c'est 3 ou 10 septembre. Ouais, début septembre.
J'ai aussi les collègues qui l'ont vu. J'ai une collègue qui a été marquée.
C'est un film. Tu ne peux, à part dire les premières minutes, comment ça s'installe, mais sinon tu peux pas raconter. En fait, il y a tellement de péripéties, enfin de trucs, des twists, que c'est impossible à raconter. Donc il faut aller le voir pour vraiment le vivre aussi. Et à vivre dans une salle, parce que le son, là, pour le coup, il est vraiment chouette.
Et par exemple, en film, récent film d'horreur que j'aimerais bien... Maintenant, on pourra en faire en plus une trilogie. Enfin, il y a une trilogie, donc les trois. Le 28 ans plus tard est incroyable. Il a vraiment quelque chose de... Bah, pour le coup, tu dis... Ah ouais,
mais il n'y a pas eu de suite, là, qui va...
Et 28 ans plus tard, en fait, ils ont écrit et déjà tourné, je crois, une suite. En fait, ils pensent en fait, c'est une trilogie. Et des personnages que tu vois dans ce film-là sont au centre du prochain film.
OK.
Mais déjà, celui-ci... Ah, c'était chouette. Hein. Ça m'a fait plaisir. Hein,
Puis en film français récent, moi, que j'avais beaucoup aimé en cinéma d'horreur, parce que je crois qu'il en fait... Mais je me demande si c'est pas lui qui a réalisé le... j'ai perdu le nom du réel, mais c'est Vermine. J'ai perdu le nom du réel. C'était vachement bien, Vermine.
Vanisek, voilà. Qui est actuellement en train de tourner Evil Dead.
Ah, Evil Dead, Evil Dead.
Là, il le tourne actuellement aux États-Unis et on lui envoie des petits messages. Tu voudras venir le présenter
Parce que Vermine, c'était vachement bien.
Ah, c'est super. Ah, ouais. Voilà. Et ça, les gens se dépassent. Tu vois, ça, c'est des films aussi sur l'anglais, ils fonctionnent bien.
On va faire une autre petite coupure musicale, puis comme ça, après, on parlera de It Follow et de Crawl. Et je vous propose toujours une musique qu'on peut entendre dans ce film, c'est Nick Cave et The Bad Seeds, Red, White and Up.
A little walk to the edge of town and go across the track where the viaduct looms like a bird of doom as it ships and cracks. Where secrets lie in the border fires and the humming wires. Yeah, man, you know you're never coming back. Past the square, past the bridge, past the mills, past the stacks. On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. Wrap you in his arms, tell you that you've been a good boy. He'll rekindle all the dreams that took you a lifetime to destroy. He'll reach deep into the hole, heal your shrinking soul, but there won't be a single thing that you can do. He's a god, he's a man, he's a ghost, he's a guru. They're whispering his name through this disappearing land, but hidden in his coat is a red right hand. Thank you.
of respect. You feel like an insect. Well, don't you worry, buddy, 'cause here he comes through the ghettos and the barrio and the barry and the slum. His shadow is cast wherever he stands. Stacks of green paper in his red right hand.
Radio Campus Tour, le 99.5 FM. On continue de parler de la programmation des cinémas studios et particulièrement de la soirée d'horreur qui aura lieu le 22 août prochain. On peut parler du deuxième film, on va faire un rebond, It Follows, donc, qui a 10 ans maintenant, du réalisateur américain, j'ai plus le prénom sous le nez.
David Robert Mitchell.
Voilà.
Je l'ai sous le nez.
Et alors, faudrait que je le revoie. J'ai des flashs là qui m'arrivent du film, mais je pourrais pas forcément résumer l'histoire. Je te laisse le faire.
Oui, alors c'est un peu dur à résumer, sauf que j'ai trouvé une super formule.
Ah,
c'est un film MST. C'est un film sur un monstre sexuellement transmissible. et c'est ça qui est assez incroyable. En fait, c'est donc l'histoire d'une jeune femme qui, au début du film, va coucher avec quelqu'un. Et qui va se rendre compte quelque temps après qu'elle est poursuivie par un, enfin poursuivie. Elle est suivie par un énorme homme, enfin assez grand, enfin une créature, mais ce qu'il faut pour que ce soit un peu normal et anormal à la fois. Et personne d'autre voit cette créature. Et en fait, la personne avec qui elle a couché lui explique que c'est lui qui lui a transmis ça et que lui-même l'a chopé en couchant avec une autre personne. Et si cette personne-là qui marche tout doucement, qui pour arriver jusqu'à elle t'attrape, elle te tue et c'est fini. Et pour t'en débarrasser, il faut que tu couches avec une autre personne. Et donc, notre héroïne, justement, le dilemme étant qu'elle ne veut pas filer cette maladie, ce monstre, à quelqu'un d'autre. Et donc, c'est comment lutter contre ce monstre, comment s'en débarrasser. Donc, on est sur un film, on pourrait dire un film de traque, mais en fait, le monstre ne court pas, il marche. Mais ce monstre, tu vas à l'autre bout du pays, il te retrouvera, il viendra, il prendra son temps. C'est un peu la figure du mort-vivant, mais du mort-vivant, du zombie vaudou, tel qu'on l'avait avant Georges Romero, qui sont souvent des créatures assez énormes. Assez vraiment colossal, mais surtout qui marchent tout doucement, qui vont rien faire d'autre un peu. Et voilà, c'est un film assez incroyable, justement dans cette lenteur, mais ce côté implacable. Et moi, ce qui m'avait marqué à l'époque quand je l'avais vu, c'est surtout la mise en scène de Romero Hunchell qui m'a fait beaucoup penser à du John Carpenter, notamment du Halloween par exemple. Il y a un travail sur le cadre, il y a un travail sur l'environnement urbain. Vraiment ce qu'il faut pour te mettre mal à l'aise dans des environnements qu'on a tous l'habitude de voir au cinéma. Et ça fonctionne super bien. En plus du dilemme, en plus de notre héroïne dont je n'ai pas le nom en tête. C'est un film qui fout. Alors c'est un film qui fout les chocottes, mais qui va pas foutre les chocottes par des scènes choc, en tout cas ce qu'on appelle les jumpscares, des choses comme ça. Il est vraiment plus flippant dans dans sa manière d'installer. Ouais. Et puis toujours et puis j'y reviens, mais vraiment à ce dilemme, c'est ça que j'aime bien aussi dans les films d'horreur, non pas quand ils te font peur sur de l'aspect choc ou en décharge d'adrénaline, mais aussi sur des dilemmes qu'ils peuvent te poser. C'est ça aussi qui est intéressant, bah, un peu comme dans Zombie, on te dit tiens, ce zombie, faut que tu le tues. Ouais, enfin c'est ma gosse quoi. Mmh. Et ouais, mais il faut peut-être y aller, donc là ça te prend aussi au trip, et on est là dans ce cadre-là. Ouais, vraiment, c'est un film que je suis content qu'on rediffuse. Comme tu dis, ça fait 10 ans, c'est vraiment le temps, je trouve, pour que un film prenne un peu de l'épaisseur, vieillisse, et que tu te rendes compte que...
Bon, qu'il reste dans l'histoire aussi, ouais, voilà.
Est-ce que comment il vieillit, est-ce qu'il marque son temps à ce moment-là, mais plus aujourd'hui, ou en fait, il prend de l'ampleur? Et je pense que c'est un film qui prend de l'ampleur, justement.
Et le troisième film, c'est un film américain, mais d'un français, ouais. Alexandre Aja. Crawl, ouais. Pareil, qui doit avoir pas loin de 10 ans, hein, 2016-2017, non?
Bah écoute, si j'en juge l'affiche, on est en 2019.
Ah ouais, ok, voilà. C'est beaucoup plus récent. J'avais été le voir au cinéma.
Oui, mais moi aussi, ouais. Je suis très client, moi, d'Alexandre Aja. Et on est client, d'ailleurs, de lui, parce que La Colline a des yeux, le remake qu'il avait fait du film de Wes Craven, c'était le deuxième film de la première soirée de l'horreur. On avait passé, pour le coup, c'est la seule édition, on avait fait que deux films, parce que vous voulez voir un peu comment ça allait fonctionner. Et c'était Shaun of the Dead et La Colline à des yeux, qui quand même assoit et une efficacité redoutable. Et Crawl, ça doit être d'ailleurs son dernier film, je crois qu'il en a refait entre temps. Il travaille sur des... Il me semble qu'il travaille sur une suite de Crawl, d'ailleurs, notamment. Alors moi, j'aime bien les formules. Hein. Moi, je dis que c'est les dents de la mer dans ta salle de bain. Alors clairement, c'est un hommage aux dents de la mer, et Aja est un fou du film de Spielberg. On le voit souvent. Alors je crois qu'il est encore dispo, il y a un excellent documentaire sur les dents de la mer sur Arte.
Rectification, en fait, depuis Crawl, il a fait Oxygène et Motherland.
Ah, oh, mais oui, Motherland, il est super bien avec Alibéry. Ouais, il est super. Vraiment, si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. Il est bien angoissant, bien malaisant. Un film où tu ne sais pas ce que... Même à la fin, tu ne sais toujours pas. Et ça, j'aime bien. Ouais, c'était chouette, mais c'est cool. On va peut-être le passer, Motherland, un jour. Voilà. Mais on l'avait passé, je crois. Et du coup, ouais, Crawl, c'est... Aja, un gros, gros fan des Dents de la Mer. Bah, d'ailleurs, dans un de ses... Il avait fait un remake de Piranha. Et Piranha, il faut savoir, Piranha, c'est typiquement le genre de film qui a été lancé sur le succès des Dents de la Mer, et dont le premier a lancé la carrière d'un autre réalisateur qui est Joe Dante. Et il était super, hein, le premier Piranha est vraiment cool. Et d'ailleurs, le deuxième a lancé notre carrière, mais plus difficilement, c'est James Cameron. Et le Piranha de Aja, l'ouverture est avec Robert Dreyfus. Parce que c'est un grand fou des Dents de la Mer. Et Crawl, on retrouve là, puisqu'on est face à du monstre aquatique, en l'occurrence ici des alligators. Et l'histoire, vraiment, en fait, elle est d'une simplicité et d'une efficacité redoutable. C'est un typhon. On évacue les gens. Il y a un mec, il s'est pété la jambe, il ne peut pas se déplacer de chez lui. L'eau monte chez lui. Sa fille vient pour l'aider. Sauf que à côté, comme par hasard, il y a un laboratoire, je crois, de mémoire, un truc comme ça, et des alligators viennent. Et du coup, il faut que tu essaies de sauver ton père, le chien, toi-même, de ces alligators, et va se rajouter à ça, je crois, des pillards aussi qui viennent. Enfin voilà, c'est tout ce qu'il faut pour s'en sortir. Et là, c'est pareil, c'est vraiment efficace. C'est d'autant plus efficace que tu te dis que quand même, avec un pitch comme ça, tu ne peux pas faire 1h30. Et en fait, si, il arrive à rythmer le truc, il te crée une super relation père-fils, père-fille, pour le coup. il trouve une astuce scénaristique pour quand même te dire tu peux pas échapper aux alligators. Eh ben si, puisque la fille est une nageuse professionnelle. Donc rien que ça, ce petit truc en plus fait que ça fonctionne très bien toutes les scènes où elle arrive à échapper aux alligators ou pas. Donc, c'est vraiment efficace. Moi, ça me fait vraiment plaisir de le passer et de le montrer en grand écran. C'est typique pour le coup, Crawl, le premier film qu'on aime bien passer. Un peu comédie, un peu. J'aime à dire que c'est genre le film qu'on peut passer et que ceux qui sont pas trop fans de films d'horreur peuvent aller voir, même si on aime bien les piéger hein, de temps en temps, parce que quand on a Carrie, je veux dire, le premier film, bon, c'est un peu tiré la tronche quand même pour ceux qui l'ont jamais vu et qui se sont pris en direct un massacre de lycéens à la fin ou une scène de douche avec le sang des règles qui descend tranquillement. Ou du harcèlement scolaire. Enfin bref, je reviens beaucoup sur Carrie. Mais Crawl, ouais, non, vous pouvez y aller, c'est du fun. C'est vraiment cool, c'est efficace, enfin, c'est agile, quoi. C'est vraiment. Il fait partie, je trouve, de ces réalisateurs qui arrivent vraiment à faire. Il a fait quelques mauvais films, mais généralement d'une efficacité et ça tient toujours. Et c'est incroyable de te dire qu'il n'est pas reconnu à sa juste valeur, je trouve, en France, parce que quand même, maintenant, il se tape quand même une bonne carrière, un bon corpus de films, et puis. Et c'est dommage, je trouve que ouais, on le met pas assez en avant parce que pour le coup, il fait vraiment partie des réalisateurs qui a bien mené qui mène bien sa barque.
Et je vais rebondir sur Carrie, puisque comme tous les ans, vous faites une donc là on a parlé de la programmation, maintenant on va parler des à côté et la soirée. Bah voilà, tu viens sur campus en parler. Vous avez fait d'autres médias, mais aussi vous faites une bande annonce pour promouvoir cette soirée. Et elle est évidemment, elle fait référence. Voilà, elle peut faire référence en tout cas à Carrie. Et vous êtes encore une fois bien amusé cette année. Vous avez mis la barre encore une fois très très haute. Et on sent que ouais, vous prenez de plus en plus de plaisir à tourner cette bande annonce qui est un film en soi.
C'est assez incroyable. Hein, celle-ci, j'avoue que qu'on est fier de toutes les bandes annonces qu'on a faites, mais alors celle-ci, c'est assez incroyable. Je sais plus comment l'idée est venue. Alors généralement, on balance des idées dès la fin de la première de la soirée. Alors, on a déjà des idées un peu pour l'année prochaine, par exemple. Et après, ça mouline en fait dans la caboche du réalisateur, donc Franck Ternier. Et il voit un peu ce qu'il a envie de faire, de ce qu'il peut faire. On essaie d'alterner entre une année, un teaser qui fait peur, un autre qui fait rire. Bon, là, on en fait un peu les deux, je pense. Et puis, il y a le lieu. Et là, pour le coup, le lieu, quand on a commencé à se dire on ferait un peu un bal horrifique comme ça, le lieu qui est la salle du patronage laïque de la Fuite, donc quartier Velpeau à Tours. Quand j'ai vu la salle, je me suis dit, ah non, mais il faut qu'on fasse ça là. Y a tout. Et du coup, après, bah, c'est les copains décorateurs, décoratrices. C'est Franck,
ouais, les
décos de Vanessa, enfin voilà, tout le truc, on a mis toute une journée à le tourner. Et je trouve qu'on a fait vraiment,
et puis vous acteur, quoi,
voilà,
actrice,
c'est vrai que c'est ça le plaisir, c'est de se dire, de mettre en avant les salariés des studios, surtout ceux qui sont à l'accueil, à la vente de billets.
On les voit sous un nouveau jour.
Voilà. Déjà que j'ai des collègues qui font peur au naturel, mais alors là, c'est encore plus fort. Je les adore. Et un vrai plaisir de se mettre en avant, parce que ça fait partie des choses qui fait que pourquoi les studios, c'est un cinéma différent. C'est ça, c'est de créer toujours ce lien, de se mettre, voilà, cette proximité, comme tu le dis tout à fait justement, avec notre public, et de pouvoir leur proposer ça, de pouvoir après derrière en parler, enfin voilà, de mettre en avant, de renforcer le fait que les studios, déjà tu viens au cinéma, on essaie de proposer une énorme variété de films. Mais il y a le lieu en lui-même aussi, et le lieu et les gens, que ce soit les salariés et les bénévoles, c'est aussi, si ce cinéma existe, c'est parce qu'il y a ces gens-là qui sont derrière, d'autant plus que les spectateurs qui nous aiment, qui veulent continuer, on leur ouvre grand les bras pour qu'ils puissent venir contribuer à la vie des studios. Voilà.
Et bah avant de, là il va nous rester une dizaine de minutes, on va passer le thème de It Follows. Mm. Et comme ça après on parlera de tous les à côté, des quiz, et puis de ce qu'on, de la restauration, enfin de tous les à côté de cette soirée de l'horreur. Sur Radio Campus Tour pour la dernière partie de Plan Séquence. Donc on a parlé voilà, des films Crawl, It Follows et Scream, donc le 22 août prochain. Mais voilà, entre tous ces films-là, vous n'avez pas enchaîné les trois films comme à la nuit des studios, on ne les enchaîne pas. Vous allez pouvoir vous restaurer parce qu'il y aura tout ce qu'il faut à la sortie de la salle.
Tout à fait. On prévoit plein de choses. Même avant le premier film d'ailleurs.
Ouais. D'ailleurs, on peut dire peut-être les horaires.
Oui, la soirée commence à 18h. Le premier film est à. Alors, attendez. Le premier film est à. Non, il n'est pas 1h28. Ça, c'est sa durée. Le premier film commence. Allez, je ne vais pas vous dire de bêtises. Heureusement, j'ai mon petit carnet. 19h15. Donc, on ouvre à partir de 18h. Les gens peuvent venir déjà manger, boire un coup et profiter de notre déco. Parce que, comme tous les ans, on fait une énorme déco. D'ailleurs, bah là, en fait, la déco fait écho au teaser, puisqu'on reprend tous ces éléments-là pour faire. Bah,
et vous, vous déguisez ?
Alors, nous, on va se redéguiser. Normalement, on reprend les tenues de la soirée. Normalement. Il y a des gens que je ne citerai pas. Qui ont probablement pris un peu de poids et ont du mal à rentrer dans leur jean. Voilà. Donc, il changera peut-être de costume. Mais voilà. Mais normalement, les autres, il n'y a pas de souci. Et du coup, voilà, on a toute une déco. Et à l'intérieur aussi de cette déco-là, on va créer. On fait un quiz. En fait, cette année, le quiz en fait, sera en lien avec des photos qui vont être mises et des légendes. Et sur ces légendes, vous devrez trouver les titres de films auxquels on fait référence. Alors, j'en dis pas plus sur les photos parce qu'on s'est éclaté à les faire. Et elles sont géniales maintenant qu'on voit tout le truc. Voilà. Donc, j'en dis pas plus. Les gens vont découvrir et vont devoir trouver une quinzaine de films à peu près.
Okay.
Là-dessus, on a un deuxième quiz qu'on prépare qui est un blind test. Alors, blind test, voilà, truc classique. Sauf que les chansons de musique ne seront pas forcément si classiques que ça.
Okay.
Ne vous attendez pas forcément à une playlist classique des thèmes horrifiques.
Donc, réviser avant de venir.
Voilà, on va essayer un peu de désarçonner. Donc, voilà, on a ces deux activités de quiz pendant la soirée avec des lots qui seront donnés après aux gagnants. Et. Il y a notre buvette. Voilà, on prépare. Là, on est justement dans le grand achat de courses et tout ça. On va proposer. Alors, tous nos trucs habituels, des hot dogs, sandwich VG, sandwich jambon beurre, un énorme taboulé, plein de choses, tout ça végan. Et plein de glace aussi. Cette année, on a décidé de faire plein de glace parce qu'il fait un peu chaud. Donc ouais. Voilà. De la sangria, de la boisson alcoolisée, du bissap, des softs, enfin voilà, tout. Un espèce de grand truc, voilà, pour tous les goûts, pour que bah, les gens puissent se poser, discuter, boire, manger. Voilà, il ne faut vraiment pas qu'ils hésitent. Et alors, surtout, mot que j'ai envie de demander, enfin, le commandement, venez déguisé, vraiment le plus possible. Nous, on sera déguisé, vous aussi, il faut vraiment.
Mettez-vous dans l'ambiance.
Ouais, plein de déguisements, qu'on fasse des belles photos, des choses comme ça. Enfin, voilà.
Est-ce qu'il y a un photocall
Peut-être. Non, il n'y en aura pas. Mais par contre, on aura des appareils qui traîneront et tout ça. Enfin, voilà, on va essayer. Mais ouais, venez. Tous les ans, on en a quelques-uns, des gens qui viennent déguisés. C'est vraiment cool, mais on essaie de. Voilà, essayer de venir le plus possible. Voilà, de vous faire beau pour cette soirée, c'est vraiment l'occasion idéale.
On peut peut-être rappeler, donc là on a dit les horaires, le prix des passes, puisque alors, soit à l'unité pour un film, soit évidemment les trois films, et vous pouvez déjà aller au studio prendre votre passe.
Voilà, tout à fait. Voilà, c'est ça, il y a un passe pour les trois films. Vous pouvez prendre une place pour un des films. À partir du moment que vous voulez regarder deux films, prenez le pass, c'est toujours plus intéressant. Alors, on a quatre formules selon si vous êtes abonné ou pas abonné. Si vous avez plus de 26 ans ou moins de 26 ans, et ça tourne entre 10 euros et 19 euros.
Si on n'est pas abonné.
Voilà, et que vous avez plus de 26 ans, c'est 19 euros, ce qui fait quand même. Sachant qu'une place à l'unité, c'est 10 euros. Ouais. Donc voilà, c'est déjà gagnant si vous voulez voir deux films. N'hésitez pas à prendre le pass, c'est quand même mieux. Ils partent bien, donc n'hésitez pas à venir. Ils sont pour les tickets, si vous voulez voir les films à l'unité, vous pouvez prendre soit au studio, soit sur notre site. Par contre, les passes, c'est que sur au studio directement. Et vous pouvez y aller dès l'ouverture du cinéma. Vous pouvez venir les chercher, les prendre. Il n'y a aucun problème jusqu'au jour même. Mais moi, mon petit doigt me dit que cette année, on va avoir beaucoup de monde. Donc, n'hésitez pas à venir avant.
Voilà, on vous encourage en tout cas à aller au studio, prendre vos passes dès maintenant. Et ben, on va te remercier, Jérôme, pour nous avoir détaillé toute cette soirée qui aura lieu, voilà, on vous le rappelle, le 22 août prochain au Cinéma Studio, nos chers Cinéma Studio. et puis, voilà, l'émission sera bientôt en podcast. Et puis, on se donne rendez-vous voilà, le 6 septembre pour la nouvelle saison de plan séquence, voilà, avec plein de films. Alors là, la fin d'année, va y en avoir des films, et puis des bons films qui arrivent, vraiment. On va avoir de la chance. Il y aura un peu un embouteillage, j'avoue. Il va falloir vraiment. Vous ne pourrez pas aller tout voir, ou alors il faut vraiment prendre des vacances pour aller tout voir. Parce que c'est vrai qu'entre La Palme d'Or qui arrive, voilà, tous les films cannois qui arrivent, et il y avait une bonne sélection cette année, encore une fois, on ne va pas s'ennuyer. Et ben, on vous rappelle, 22 août, soirée de l'horreur, Crawl, It Follows. Et Scream, et puis 6 septembre, on se retrouve sur Radio Campus Tour. Allez, au revoir, ciao.